France Culture.
Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Ils sont deux jeunes chefs réunis par leur talent fou, leur amour de la cuisine, leurs influences qui viennent de loin et qui parfument leurs assiettes comme des petites madeleines de Proust. L'un se présente comme un Parisien aux origines égyptiennes passé par des palaces. À sa carte, on trouve du bœuf à la sardine, une huître au condiment brioché et une volaille de Bresse à la corette. L'autre est un chimiste reconverti dans la cuisine, une cuisine française ponctuée de saveurs tunisiennes qui célèbre les vinaigres, les herbes, les fleurs et les épices. À sa carte, des ravioles de canard et poireaux avec des chips de coriandre, un agneau en deux cuissons et une tartelette géranium citron. Leurs plats prennent racine dans les souvenirs d'enfance, des plats familiaux venus d'Égypte et de Tunisie qui affleurent dans leurs assiettes parisiennes, car aujourd'hui, chacun a son propre restaurant dans la capitale. L'un est étoilé et l'autre pourrait bien le rejoindre bientôt. Omar Diab, bonjour.
Bonjour.
Le restaurant étoilé, c'est vous, chef du restaurant éponyme, rue Hérold, c'est dans le premier arrondissement.
Exactement.
Un restaurant qui a ouvert en 2022 et qui a obtenu son étoile du guide Michelin en 2023. Youssef Marzouk, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef du restaurant Aldéhyde. Lui, il est situé rue du Pont Louis-Philippe dans le 4e arrondissement. Il a ouvert en septembre 2024. Eh bien tiens, pour commencer, je voudrais bien que vous nous preniez par la main et que vous nous emmeniez dans votre restaurant respectif. À quoi ça ressemble chez Omar Diab?
À quoi ça ressemble? Vous rentrez, vous arrivez tout de suite dans la cuisine.
Grande cuisine ouverte.
Exactement, avec un long comptoir. Donc vous avez affaire tout de suite à toute la cuisine, à toute l'équipe de cuisine. Donc c'est même pas moi, c'est presque les cuisiniers qui vous disent bonjour en premier. C'est même pas non plus un serveur. Vous traversez la cuisine et les caves à vin vitrées. Ça plante un peu le décor et vous arrivez au fond, donc dans la salle du restaurant.
Du marbre, du bois, c'est chic et sobre.
C'est chic et sobre.
Ouais, ça vous va, chic et sobre?
Ouais, c'est très bien, c'est parfait.
Chez vous, c'est comment, Youssef Marzouk?
Quand on rentre, c'est un petit peu pareil. On a accueilli soit par moi, soit par Thibault, donc le directeur de salle. Et on a directement la vue aussi sur la cuisine. C'est une cuisine ouverte avec un très beau bar à vinaigre et fermentation qui vous accueille.
Ça donne le ton?
Exactement. Ça permet aussi de savoir où on met les pieds et donc de voir cette cuisine qui s'affaire devant. Et l'avantage qu'on a, c'est que aussi bien Thibault, donc le directeur, que les cuisiniers viennent servir les clients et on casse un petit peu cette barrière de les cuisines dans leur cuisine, cachées derrière et les serveurs en face. C'est un beau balai qui se présente à chaque fois qu'on vient manger chez moi.
C'est ça le principe de la cuisine ouverte pour vous aussi, Omar Diab? C'est on ouvre tout, on montre tout?
Ouais, enfin même là, je pense un peu comme Youssef, c'est même pas une cuisine ouverte là, c'est la cuisine est dans la salle presque.
Oui, c'est presque
l'inverse. On passe dans la cuisine. Moi, l'idée c'était de faire une maison de cuisiniers et que les cuisiniers, peu importe, j'ai remarqué.
C'est joli, maison de cuisinier.
Hein. Ouais, mais j'ai remarqué que quand on débute dans ce métier, donc très jeune, très tôt, on met une dizaine d'années avant de parler à des clients. Quand on fait surtout des grandes maisons. Et là, l'idée c'était même un commis ou un apprenti puisse mettre enfin un visage sur un client. Donc on parle toujours d'un client habitué, soigné ou pas soigné, ou etc. Ou de clients qui mangent ceci ou cela, ou qui est un habitué. Et au final, on n'a jamais son visage. Donc c'est des gens qu'on n'a jamais vus, mais qu'on connaît leur habitude alimentaire. Et là, l'idée, c'était que tout le monde puisse enfin mettre un visage sur des clients, et que le client, s'il avait envie de remercier les cuisiniers, n'était pas obligé de passer par moi, mais pouvait directement remercier les cuisiniers.
Youssef Marzouk.
C'est pareil, c'est exactement la même idée. Et surtout, ce qui est sympathique, je trouve, avec cette idée de casser un peu les codes, c'est que des fois, un client, quand il a une question à poser, on va dire un peu plus technique, le directeur ou la personne qui est en salle n'a pas forcément des fois toutes les connaissances techniques, alors que qui mieux qu'un cuisinier peut répondre à ce qu'il y a dans votre assiette, comment ça a été fait. On n'hésite pas à donner les recettes, on n'a aucun secret, on n'a aucune chose à cacher, donc on donne tout, on explique vraiment tout au client et ça casse encore plus une barrière et surtout ça crée un lien supplémentaire où le client a vraiment l'impression d'être reçu à la maison, quoi.
Alors ça, c'est pour le décor qu'on a planté. Alors cela dit, je n'ai pas dit, Youssef Marzouk, que chez vous, c'est du bois, c'est de la pierre apparente, les teintes vert d'eau, il y a un peu de bleuté, un petit poisson bleu, par
exactement.
Petit poisson bleu, c'est quoi?
C'est un petit porte-bonheur que m'a offert ma mère pour l'ouverture du restaurant. Dans la plupart des maisons en Tunisie, on accroche un poisson, c'est censé porter bonheur et protéger la maison. Donc c'était sa façon de nous porter bonheur au restaurant en nous offrant ce poisson bleu.
Alors ça, c'est pour le décor. Donc, et maintenant votre cuisine. On va y revenir, bien entendu, dans la deuxième partie de cette émission. Mais comment qualifiez-vous, vous, déjà, votre cuisine? Est-ce que vous diriez, par exemple, c'est une proposition que je vous fais, que c'est une gastronomie française matinée d'influence nord-africaine? Omar Diab.
Je préfère dire c'est une gastronomie, tout simplement.
Tout court.
Tout court. Après, bah forcément, les produits sont français, parce qu'on va pas aller chercher des produits à l'autre bout du monde, donc ça paraît sensé. Après, on peut faire lien forcément avec la gastronomie française. Pour moi, c'est une gastronomie, et qui, à laquelle on, moi, personnellement, je pense que c'est aussi, c'est d'amener des pointes, entre guillemets, d'originalité.
Des
surtout,
pointes.
Et surtout de souvenirs, quelques nuances de par mes origines, et des souvenirs d'enfance.
Pointe, nuance, pareil. Youssef Barzouk, tout pareil.
C'est exactement, je trouve que c'est extrêmement bien dit. Et ma cuisine, c'est plus une gastronomie très axée donc, sur les vinaigres, les herbes, les épices, les sauces également. En ayant travaillé pour le chef Donkel, on est forcément un petit peu influencé par
Arnaud Donkel.
Arnaud Donkel, bien évidemment. On est forcément un petit peu influencé par ce qu'il a fait et cet amour des sauces qu'il a pu nous transmettre. Et de cette façon dont il a de concevoir un plat, de d'abord imaginer la sauce et ensuite d'imaginer le plat, c'était un petit peu, je pense, à l'inverse, peut-être, de ce qu'on a pu apprendre, ce que j'ai pu apprendre avant, c'était plus d'abord, on part peut-être de la viande, de la garniture, et ensuite on va parler de la sauce. Lui faisait le chemin inverse, donc forcément ça nous a beaucoup influencé, et ensuite on aime bien venir mettre des petites touches par-ci par-là, que ça soit de nos souvenirs d'enfance, de nos souvenirs de voyage aussi. Vous parliez tout à l'heure de la raviole, c'est un souvenir de voyage que j'ai fait en Asie, donc toutes les gastronomies se rejoignent au final et
voilà.
Et voilà.
Youssef Marzouk parlait des sauces et de l'influence, notamment de Arnaud Donkel dans sa formation. Chez vous, Omar Diab, ce serait quel chef qui aurait peut-être le plus marqué votre formation? Vous êtes passé par un certain nombre de chefs, hein, avant de, un certain nombre de cuisines, hein. On peut citer Christian Le Square, on peut citer Christophe Moret, on peut citer Loiseau Rive Gauche. Bon.
Alors, en vérité, un peu tous, hein. Ce que je dis toujours, c'est Christian Le Square m'a appris à créer des plats, à être sans cesse dans la recherche, dans le mouvement et à essayer d'aller plus loin dans la modernité en cuisine. Et Christophe Moret, pardon, m'a inculqué la connaissance et la technicité d'un cuisinier en France, on va dire. Pour moi, voilà, c'est vraiment ces deux mélanges de pas de cuisine, mais en tout cas de philosophie qui font le cuisinier que je suis aujourd'hui. Donc avec une cuisine, on va dire, un peu plus classique côté Christophe Moret, donc axé vraiment sur les sauces, beaucoup de légumes, beaucoup de végétales, et une cuisine qui va beaucoup à l'essentiel avec Christian Le Square, et très très créative et moderne.
On fait dans le désordre, c'est ça qui est bien. On va revenir sur cette cuisine actuelle, mais je voudrais qu'on remonte, puisque vous avez parlé l'un et l'autre de vos souvenirs d'enfance, il y a bien sûr des voyages aussi, mais surtout les souvenirs d'enfance, parce que je me permettais de dire que votre cuisine à tous les deux prend ses racines dans les souvenirs d'enfance. On pourrait me rétorquer, mais enfin, tous les chefs et toutes les cuisines de chefs partent de l'enfance, sauf que vous, et vous les mettez en avant, de façon très discrète. Alors, pour comprendre cette enfance, il faut peut-être revenir à l'enfance. Donc, chez vous, par exemple, Omar Diab, qui cuisinait?
Moi, c'était mon père.
Qui était lui-même dans la restauration.
Qui était lui-même dans la restauration. Donc, mon père cuisinait beaucoup plus que ma mère. Ma mère cuisinait beaucoup, beaucoup moins. C'était de la cuisine, cuisinait une fois par semaine. Donc, ces réels souvenirs sont avec mon père qui cuisinait, la Corrette. Un plat.
C'est quoi la Corrette, alors?
La Corrette, c'est une feuille.
C'est Am qui a préparé cette émission, qui connaît bien la Corrette, nous dit que c'est une plante qu'on utilise en Égypte et en Syrie et que c'est très difficile de la trouver ici.
Et en Tunisie.
En Tunisie aussi. Très difficile de la trouver en France.
C'est très difficile de la trouver en France et justement, on l'a fait cultiver en France. Que l'idée, c'était de faire ce plat, il y a longtemps, qui remonte à 2 ans. De la volaille Corrette, ce que mon père faisait tous les dimanches.
Le plat fétiche du dimanche.
Voilà. Et l'idée, c'était au lieu de faire d'aller chercher la Corrette en Égypte et de la ramener, l'idée, c'était de la faire pousser, de la cultiver ici.
Donc à faire.
Donc j'ai réussi à en faire pousser par mon maraîcher, qui est à Carrère-sur-Seine, la famille Rian. Et du coup, la première récolte a bien marché. On a tout récolté, on a tout mis à sécher. Et on a réussi à faire de la Corrette d'Île-de-France, et avec un plat égyptien, mais avec de la Corrette faite en France.
Chez vous, Youssef Marzouk, racine tunisienne, je disais, mais aussi racine de restauration, puisque votre père était cuisinier, votre mère restauratrice, donc vous êtes aussi tombé dans la marmite quand vous étiez petit.
Un petit peu ça, comme je dis, un petit peu comme Obélix, je suis tombé dedans étant petit. Mon père était chef pâtissier de métier, et ma mère et mon père ont acheté un restaurant l'année de ma naissance, et ils ont été restaurateurs pendant 20 ans, un bistrot de quartier en banlieue parisienne, donc j'ai toujours baigné dans ce milieu, j'ai toujours traîné dans leurs pattes à essayer de goûter un peu tout ce qu'ils faisaient et à vraiment m'imprégner de tout ce qu'ils faisaient. Donc j'avais aussi bien mon père qui cuisinait que ma mère, les deux sont d'excellents cuisiniers. Et j'ai eu beaucoup de souvenirs grâce à eux d'enfance, de mon petit plaisir le soir quand ils rentraient, c'était de le sentir, parce que passer 10 heures à faire des gâteaux, forcément qu'on sent le gâteau en rentrant. Donc j'ai toujours ce souvenir de mon père qui rentre en sentant le gâteau. Donc c'est sûr que ça imprègne et ça donne envie pour la suite. Donc moi, je les ai toujours vus faire ça. Donc forcément, ça m'a donné envie pour l'après. Et mes parents ont toujours connu, en fait, le travail, on va dire, du fait main, le fait de tout faire maison. Enfin, il n'y avait jamais quelque chose qui était acheté. Pas de conserve, pas de choses comme ça. Donc je les ai vraiment vus tout faire. Et même des préparations, des fois, qui sont très, très longues. Vous parliez de la corette, par exemple, comme vous disiez, de la faire sécher. Certains plats mijotés, par exemple, la molokhia, ce plat à base de corette qui prend des heures et des heures à faire. Ma mère le faisait à la sueur de son front. Donc forcément que ça imprègne un petit peu, ça donne aussi le goût du travail.
Alors il y a des souvenirs gustatifs, vous les évoquez, mais il y a aussi des souvenirs auditifs. Par exemple, si je vous mets ça dans l'oreille, vous me dites quoi ?
Voilà.
Voilà.
Quel joli plat.
Au revoir.
Et bon appétit, bien sûr.
Forcément.
Alors, c'était quoi ?
Ah bah c'est l'émission de Monsieur Robuchon. Bon appétit, bien sûr. C'était la première émission de cuisine devant laquelle j'ai été mis devant la télé étant enfant. J'étais pas forcément un enfant turbulent, mais bon, comme je vous disais, je traînais souvent dans les pattes de mes parents. À toujours être à côté d'eux. Donc des fois, quand ils voulaient être un petit peu tranquilles, que ce soit pour cuisiner, pour faire d'autres choses, ma mère me disait toujours que c'était la seule façon de me calmer, c'était de me mettre devant cette émission, et j'étais absorbé par ce que disait Monsieur Robuchon et par sa façon de cuisiner. Donc on parle de la génération Top Chef avec des gens qui ont eu envie de cuisiner en regardant Top Chef. Bah, moi, c'est ça qui m'a donné aussi envie de cuisiner, et c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier aussi, je pense.
Vous êtes à peu près de la même génération, l'un et l'autre. Omar Diab, cette émission, elle vous parle aussi ? Ça a été diffusé de 2000 à 2009 sur France 3.
Si, complètement. Bah, je pense de mes 10 à mes 15 ans. Avant, on va dire, Chef La Recette, Cyril Lignac, etc. C'était surtout Monsieur Robuchon. Je ne sais même plus, ça passait à midi, mais moi, je voyais ça une fois par semaine, je crois. Donc ça devait être le mercredi, vu que j'étais à l'école. Mais non, ouais, j'en ai aussi un très bon souvenir.
Il y en a qui ont grandi avec Récréa 2 et d'autres avec Joël Robuchon, ok, on a compris. Cela dit, vous avez commencé, Youssef Marzouk, non pas par faire de la cuisine, mais par faire de la chimie. Et puis à un haut niveau en plus, bonnes études de chimie.
Bah, l'idée, c'était justement mes parents ayant connu la dureté du métier. C'est quand même un métier qui est physique, c'est un métier qui demande beaucoup de temps, où on n'est pas souvent à la maison, on travaille en moyenne une douzaine d'heures par jour debout, dans la chaleur, beaucoup de choses à gérer. Donc ils ont connu un peu cette difficulté, et pour leurs enfants, je pense que ce qu'ils avaient envie, c'était plus de quelque chose, je vais pas dire de plus simple, mais on va dire de plus tranquille, où on peut avoir une vie de famille, où on peut gagner décemment bien sa vie sans avoir besoin de se tuer à la tâche. Donc ils nous ont plus poussé vers les études, et c'est vrai que moi, de mon côté, le côté scientifique, j'avais des facilités à ce sujet-là, donc forcément on m'a poussé vers des études de chimie. C'est vrai que quand j'ai commencé, j'étais très bon dans ce que je faisais, mais la passion m'a vite rattrapé, et au final, je me voyais pas toute ma vie dans un labo de chimie. Je me préférais largement dans un labo de cuisine. Donc, je suis parti et j'ai stoppé ça en disant, voilà, c'est pas ce que je veux faire. Je veux pas être frustré à 40 ans à me dire, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. J'avais 20 ans à ce moment-là. Donc, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Autant repartir en cuisine. Et donc, je suis parti en école hôtelière j'ai commencé mon parcours comme ça.
Et de fil en aiguille, vous voilà donc chef de votre restaurant Aldéhyde en plein cœur de Paris. On vous souhaite d'ailleurs, Youssef Marzouk, la même ascension fulgurante qu'à Omar Diab, qui avait ouvert en septembre 2022 et obtenu 6 mois plus tard la première étoile au guide Michelin en 2023. En tout cas, vous avez dit, Youssef Marzouk, que c'était effectivement un métier très difficile, qui nécessitait de combiner difficilement d'ailleurs cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée. De fait, je pense qu'ouvrir un restaurant en 2022-2024, c'est-à-dire quand même après le Covid, ça n'est pas la même chose qu'ouvrir un restaurant avant. C'est pas plus facile, peut-être même au contraire. On a dit que c'était difficile de recruter, etc. Ouvrir un restaurant l'un et l'autre, ouvrir un restaurant dans les années 2020, c'était quoi? C'est un rêve, c'est un pari, c'est un défi, Omar Diab?
C'était un défi personnel. Je pense que j'avais envie de devenir chef propriétaire. Voilà, j'en avais marre aussi d'être un peu sous la responsabilité d'un groupe ou d'un dirigeant, enfin autre. Et je me suis dit, au lieu de me plaindre, c'est d'ouvrir et fait mieux. Et puis, je me suis lancé en 2022.
Et avec des contraintes particulières, donc post-confinement, on est en plus là, 5 ans, quasi jour pour jour.
Les contraintes, c'est surtout les financements, surtout qui sont les plus compliqués. C'est les banques ne prêtent plus, la restauration est devenue un métier à risque en termes d'investissement pour les banques. Donc forcément, il faut un dossier béton. Donc c'est surtout ça la contrainte. Après oui, il y a toujours la contrainte du personnel, l'inflation sur les produits alimentaires. Mais est-ce que c'est plus contraignant qu'avant? Je sais pas. Je pense que oui, parce qu'il y a quand même moins de personnel qu'avant le Covid. Mais je pense que si on fait bien et qu'on arrive à fédérer, il n'y a pas de raison qu'on s'en sorte pas.
Youssef Marzouk.
Un peu d'accord avec ce qu'a dit le...
Un peu seulement.
Non, même beaucoup, même pour le coup, mais... C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué post-confinement, je pense, d'ouvrir. Comme disait le chef Omar, le personnel, c'est beaucoup plus compliqué à recruter aussi. Il faut réussir à fédérer, il faut réussir à donner, je pense, aussi des bonnes conditions de travail aux gens pour leur donner envie de venir et de poursuivre ce métier, parce que ça reste un beau métier. Ça reste un métier de passion, c'est sûr, mais ça reste un beau métier. Et allier vie perso et vie professionnelle dans ce métier, l'équilibre des fois est compliqué, donc réussir à donner cet équilibre à son personnel donne forcément aussi envie de rester, et je pense aussi de se dépasser pour les personnes qui bossent avec nous. Il y a des choses qui progressent, je trouve, au fur et à mesure du temps, et c'est dans un sens tant mieux, et peut-être que le confinement justement a permis aussi un peu d'ouvrir les yeux à ce sujet.
Omar Diab.
La vérité, c'est qu'un restaurant sans salariés, sans chef, sans équipe, ça ne tourne pas. Donc, ce qu'il faut, c'est réussir à allier les deux. Enfin, réaliser quand même son objectif, c'est quand même de gagner de l'argent dans un restaurant, de le faire tourner, mais aussi de pouvoir nourrir ses équipes et de les faire évoluer et surtout leur amener un certain confort.
Vous êtes combien chez Omar Diab?
On est 16 aujourd'hui.
Et vous êtes combien chez Aldéhyde?
On est 5 pour l'instant. Pas le même effectif.
Youssef Marzouk du restaurant Aldéhyde et Omar Diab du restaurant Omar Diab, tous les deux restaurants à Paris, sont les invités des Bonnes Choses ce midi.
It's really the...
Yeah,
I want to
stir
the sauce.
You
want
what?
Stir the sauce. Irish people, I mean, after all, we really did come in here and live here, you know what I mean? And then, of course, as it's just like everything else, you know, everybody got together and then they made one happy family. Now my meatballs are in, I shall put my cover on and forget about it. That's it.
C'est un extrait d'un documentaire signé Martin Scorsese, 1974. Ce documentaire s'appelle Italian American. Il est en train de filmer ses parents. En l'occurrence, c'est sa mère en cuisine qui fait ses fameuses boulettes de viande en sauce. Parents immigrés italiens venus aux États-Unis. Et voilà, c'est Scorsese qui signe ça. Et c'est Cassandre Puel qui réalise cette émission, qui a trouvé cette petite pépite. Pour parler de votre cuisine, vous, justement, qu'est-ce que votre cuisine a gardé de vos origines? Est-ce que vous avez envie de mettre ces petites pépites? Vous avez dit des pointes, des nuances au Omar Diab tout à l'heure. En avant ou c'est plutôt discret?
C'est plutôt discret, c'est difficile à déceler pour, entre guillemets, pour des clients lambda, enfin même pour tous les clients, mais ça va vraiment être des réels souvenirs. J'ai plein d'exemples. En été, on fait un suc végétal, on fait mariner des légumes, donc une marinade à froid avec de l'huile d'olive, du vinaigre, tomates, concombres, oignons, et en fait, on laisse ça macérer pendant 24 heures et on récupère ce jus qu'on vient juste gélifier et qui nous sert à assaisonner des coquillages. Et ça, c'est pareil, c'est une inspiration d'une salade égyptienne. Quand vous avez mangé dans n'importe quel bibui en Égypte, on vous sert cette salade donc de tomates, concombres, oignons, qui est toujours assaisonnée, vous savez, 2-3 heures avant, ce qui fait qu'elle baigne dans le jus. Et dans ces fameux restaurants-là, on peut demander un verre de whisky. Et en fait, un verre de whisky, c'est ce jus de cette salade. Et en fait, l'inspiration, elle vient de là. Donc en fait, ce sont des réelles inspirations égyptiennes, mais qui sont, on va dire, très dures à déceler pour des clients. Mais ce qui est normal. Mais c'est-à-dire que l'influence est vraiment là, l'inspiration est vraiment là. Moi, personnellement, j'ai pas envie de mettre des épices à tout va juste pour dire.
Sauf peut-être à la fin, à l'extrême fin de votre repas et au début. Mais peut-être à l'extrême fin du repas, c'est encore comme c'est solide, alors qu'au début c'est liquide, puisque vous offrez quelque chose à boire qui vient de l'Égypte.
C'est ça, c'est une célèbre boisson rafraîchissante, qui est servie chaude en hiver, qui vient d'Assouan, c'est le carcadet à base d'hibiscus. Donc c'est la première boisson qu'on sert au client au moment où il s'assoit, avant même un verre d'eau. Et on finit par justement ce gâteau de semoule à la fleur d'oranger et raisin de Corinthe.
Qui est votre madeleine de Proust.
Voilà, exactement.
Et qui casse ce qui a précédé d'une certaine façon au Mardia. Parce que votre cuisine, c'est une cuisine qui est plutôt, je parle sous votre contrôle, qui est très délicate mais qui est assez corsée, qui est secouée par l'acidité, que vous aimez bien iodée, parce que vous aimez pas mal les produits de la mer. D'accord. Et puis, votre marque de fabrique, c'est les condiments, les sauces et l'acidité. Alors c'est tout ça. D'un coup, le gâteau de semoule à la fleur d'oranger, ça surprend un peu.
C'est ça.
C'est l'idée, surprendre.
Ouais, complètement. C'est la boucle est bouclée. En fait, si on commence par le carcadet, on finit par le gâteau de semoule. Et l'idée, c'est que j'avais pas envie d'avoir des mignardises, ce que je dis toujours aux clients, trois petites tartelettes qui en général sont faites 5 heures avant, qui sont très belles, mais qui sont jamais très bonnes. Et j'avais envie de quelque chose de très rustique et de le servir comme ça, de cette manière à l'anglaise. Je trouvais que pour finir un repas, c'était parfait. Qu'on n'avait pas besoin de plus que ça. Au-delà de souvenirs à moi, je pense que le gâteau de semoule en lui-même parle à beaucoup de personnes, peu importe les origines. Et c'est ce que me disent souvent les clients, c'est que merci. Et en général, quand je vais les voir après le gâteau de semoule, en général, c'est tout ce qu'ils retiennent à la fin. Ils me remercient surtout pour le gâteau de semoule, pour la cuisine,
d'ailleurs,
bien sûr.
D'ailleurs, c'est le gâteau de semoule que vous avez offert pour le site, pour notre page internet,
exactement,
avec la recette
exactement.
Du sublime gâteau de semoule, fleur d'oranger et raisin de Corinthe. Qu'est-ce que votre cuisine, Youssef Marzouk, a gardé de vos origines à vous ?
Pour le coup, c'est vrai qu'on aime bien y mettre des petites touches par-ci, par-là et certains souvenirs aussi. Quand je parle de touche, c'est vrai que moi j'ai eu cette culture où le côté épicé, je parle pas du côté piquant, mais je parle vraiment du côté épicé. Je trouve ça plus simple pour moi de le travailler parce que j'ai eu l'habitude de manger des épices depuis tout petit, que ça soit du cumin, que ça soit de la graine de nigel, des choses comme ça. Donc c'est aussi pour ça que la cuisine est quand même axée sur les épices, un des trois grands traceurs. Et ensuite, c'est vrai qu'on aime bien y mettre des petites touches, retravailler des choses de mon enfance. On avait fait un canapé carottes et cumin qui retravaillait donc la kémia tunisienne. On travaille beaucoup les condiments aussi, un peu comme le chef Omar, où on a pu travailler une salade à méchoui qu'on a retravaillé différemment en siphon, donc beaucoup plus aérien, beaucoup plus travaillé aussi, mais c'est sur une base de condiments qui accompagnent les barbecues. Quand on est en été, où c'est différents légumes du soleil qu'on va venir laisser griller sur le barbecue, qui sont juste hachés, assaisonnés d'huile d'olive et de sel. Là, on en a fait un siphon, on a travaillé une double sauce, un peu comme ce que nous a appris Chef Donkel, avec un jus d'agneau donc qui vient le perler monté d'un suc d'anguille. Donc ça fait partie de ce genre de choses. Les souvenirs aussi, forcément, je vais parler du pré-dessert qu'on sert, donc qui est mon petit déjeuner d'enfance en Tunisie. Donc pour la petite histoire, donc quand je vous disais que ma mère faisait vraiment tout à la main, il y a un dessert tunisien qui est assez connu, qui s'appelle le zgougou. Donc c'est une crème de pomme de pin. Donc déjà pour extraire la pomme de pin, c'est quelque chose qui est assez long, c'est quelque chose qui est assez fatigant et usant. Et on en fait une crème dessert. Et c'est quelque chose qui est quand même assez amer et astringent. Donc quand on est petit, je pense que quand on a moins de 10 ans, c'est quand même assez compliqué de le déguster. Donc souvent pour l'adoucir sur le dessus, on mettait une crème à base de géranium rosa, qui est une fleur très utilisée dans la cuisine tunisienne. Et donc moi, quand j'étais tout petit, elle me servait ça. Et moi, je mangeais que la crème de géranium, mais je lui donnais toujours la partie zgougou à l'époque. Donc ça la rendait un peu folle, parce qu'elle passait des heures à le faire. Et au final, voir que je mangeais que le dessus, ça la rendait un peu zinzin. Bon, maintenant, j'adore ça. Et je termine 4-5 pots d'affilée, limite... je suis un peu triste de me dire, ouais, j'en ai mangé 5 quand même à la suite, faudrait peut-être pas abuser. Mais voilà, il y a ce côté-là, donc ce petit souvenir.
Et c'est ça que vous nous avez offert aussi, exactement. La recette de la tartelette géranium citron, je ne sais pas comment l'appelez, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Que vous nous avez offert pour le site. Mais il y a d'autres choses, par exemple, il y a le dessert, qui est une sorte de dessert signature, Youssef Marzouk, qui est un chocolat tagette façon After Eight, qui a aussi une histoire familiale.
C'est pas un dessert tunisien, c'est l'After Eight, c'est un biscuit anglais, donc c'est quelque chose qu'on a amené chaque été en Tunisie à mon grand-père, parce que c'était vraiment son biscuit favori et
il en raffolait
énormément. Et à l'époque, il y avait pas ce côté mondialisation, donc il y avait pas de Carrefour, il y avait pas de choses comme ça, donc avant vraiment quand on voulait ramener des produits, enfin quand en Tunisie on voulait des produits, il fallait attendre l'été que toute la famille vienne avec des valises remplies de cadeaux, et donc nous c'était rempli d'After Eight pour le grand-père, on lui faisait son stock pour l'année, qui portionnait, qui rationnait toute l'année, même des fois il finissait avant, donc il disait pas possible d'en ramener avant, enfin bon, c'était un peu drôle, mais voilà, on lui amenait chaque été, et moi c'était mon petit plaisir, je sais que c'était sa gourmandise préférée, donc je prenais le paquet, j'allais lui donner en main propre, et du coup quand je lui amenais, il l'ouvrait toujours devant moi, il en prenait un avec moi et il m'en donnait un. Donc moi j'aimais pas ça. En plus c'est ça qui est drôle parce que c'est quand même spécial.
Mais et aujourd'hui vous le retravaillez alors. Et c'est fait façon After Eight. C'est vraiment
coup,
un
voilà.
Petit clin d'œil.
On a changé donc l'amande par la tagette, donc cette plante herbacée qui a vraiment cette saveur mentholée mais plus fraîche, acidulée, qui tire un peu plus sur le fruit de la passion. Donc ça, c'était un beau clin d'œil à ça, et j'ai rajouté aussi une note fumée à ce dessert, donc c'était pour rappeler vraiment l'odeur de fumée de mon grand-père, parce que quand je le mangeais sur ses genoux, il avait toujours cette odeur de fumée, donc j'ai voulu vraiment aller très loin dans le souvenir en me disant, quand je le mangeais, voilà, c'était comme ça, c'était avec cette odeur autour de moi, donc je voulais que le client en fait soit... qui s'imagine limite moi plus jeune sur les genoux de mon grand-père en train de le déguster, et ça fait toujours son petit effet, les clients sont très contents, donc...
C'est important que les clients soient contents, n'est-ce pas Omar Diab ? C'est important que les clients soient contents au final.
Très contents, ouais. C'est quand même pour ça qu'on se lève. Donc des clients contents, c'est des clients qui reviennent, c'est des clients qui en reparlent, donc c'est indispensable.
Et ils aiment en particulier votre plat signature, le croque-riz de veau.
Ouais.
Entre deux tranches de pain de mie toasté, avec un condiment grenoblois, j'ai appris ce que c'était, c'est citron confit capre.
Citron confit, en fait l'appellation grenobloise initialement c'est un peu ce qu'on retrouve quand on mange une sole ou une limande à meunière, et la garniture grenobloise c'est citron, capre et pain de mie, d'où l'inspiration du condiment grenobloise, donc là qui est à base de citron confit, cerfeuil, marjolaine et capre, et on s'en sert justement pour casser un peu la rondeur et la richesse du riz de veau.
Il y a une deuxième adresse qui va ouvrir Omar Diab.
C'est ça.
Bientôt, toujours à Paris, dans le 10e arrondissement, en lieu et place de Sapide, le restaurant d'Alain Ducasse. Il va s'appeler Elbi. Alors, Elbi, c'est cœur en arabe.
C'est cœur en arabe.
Ça veut dire que vos influences, vos origines seront un peu plus affirmées là ?
Beaucoup plus présentes, en effet. Voilà, là-bas, on va dire qu'on va vraiment jouer la carte de réellement de mes origines, et beaucoup plus poussée que dans le restaurant. Omar Diab. Donc là-bas, ça va être, on va dire, pas plus assumé, mais ce sera beaucoup plus typé égyptien.
Bon, ça, on verra, on ira voir.
Avec
en tout
plaisir.
Cas, la bonne nouvelle, c'est que Aldehyde propose un déjeuner, au déjeuner, un menu à 35 euros, un autre entrée plat dessert à 45. Le soir, menu en 5 ou 7 étapes, 95 euros et 120 euros. Et Omar Diab, c'est à peine plus cher pour un restaurant étoilé, bravo. Entrée plat dessert, 58 euros. Entrée poisson, viande, dessert, 88 euros. Après, il y a un menu en 5 services à 118. Et si on a gagné au loto, il y a un menu en 7 services à 148. Et un 9 temps, pour avoir l'appétit aussi, à 168. Un grand merci à tous les deux d'être venus ce midi nous parler de votre cuisine dans les bonnes choses. Vous trouverez sur notre site franceculture.fr, à la page des bonnes choses, toutes les informations, les adresses, les références dont on a parlé. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France, avec la petite équipe des bonnes choses, à la documentation Céam Boutata, à la réalisation aujourd'hui Cassandre Puel et à la prise de son Jean-Guy Lermège. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.